Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis pour ma part en super forme et j'accueille aujourd'hui Céline pour la première fois. Donc habituellement sur le blog Yoga Passion, on a des interviews écrites. Et là, pour la première fois, on va avoir une interview audio. Donc ça va être super chouette de pouvoir échanger directement toutes les deux. Et bah, je vais te demander si tu es d'accord, Céline, de te présenter en quelques mots.
Bien sûr. Bonjour Claudia, merci de m'accueillir sur ton blog. Je m'appelle donc Céline Chadelat et je suis l'auteure du livre « Le mois d'or, bien vivre le premier mois après l'accouchement » publié aux presses du Châtelet, coécrit avec Marie-Maë Poulain. J'ai 32 ans, 2 enfants, 5 cheveux blancs et je suis journaliste, auteure. J'ai écrit un premier livre sur le moine zen Thich Nhat Hanh. J'écris depuis plusieurs années sur le thème du yoga et de la spiritualité. J'ai démarré sur le thème des religions. Je travaillais pour le monde des religions et je me suis peu à peu spécialisée sur le yoga.
Voilà. Très bien. Et du coup, ma première question par rapport au livre, ce serait de savoir comment vous est venue l'idée à toutes les deux, donc à Marie et à toi. Est-ce que vous aviez une envie d'écriture depuis longtemps? Je sais que vous êtes amies, que vous vous connaissiez déjà. Ou est-ce que vous avez été contactée par la maison d'édition, si tu veux nous en dire un peu plus?
Bien sûr. Alors, en fait, Marie et moi sommes amies depuis plusieurs années. C'est le chemin de la... un cheminement, disons, spirituel qui nous a fait nous rencontrer. On s'est rencontrés en Inde, exactement, et on a toujours beaucoup partagé sur toutes ces questions de grandes étapes de la vie. Et puis, moi, j'ai eu mon premier enfant, donc Théophile. Ensuite, j'ai eu ma deuxième petite fille, Elsa. Et en fait, à ce moment-là, quand j'étais enceinte d'Elsa, je venais de perdre mon père. Et c'était donc assez difficile et Marie m'a proposé de m'accompagner après mon accouchement en me disant « je viens chez toi et je t'aide ». Donc c'était super sympa, j'ai pas refusé l'invitation, loin de là. Et en fait, après mon accouchement, Marie était là et j'ai vécu une expérience magnifique. Enfin, toutes les deux, on a vécu une très belle expérience. Donc Marie est psychologue clinicienne et elle est spécialiste de la périnatalité. Et donc elle m'a complètement choyée, aidée pendant cette période. Donc il y avait bien sûr mon compagnon qui était là, mais en fait Marie avait vraiment déjà cette conscience du mois d'or, de l'importance, de l'horizontalité, du repos pour récupérer, retrouver son énergie, etc. Et donc en fait, moi je suis restée à me reposer pendant des jours et des jours. Alors avec ma petite fille Elsa que j'allaitais, qui était juste à côté de moi, et je me suis complètement consacrée à elle. Et donc on est sorti de cette expérience, moi qui peux avoir parfois un tempérament un petit peu mélancolique, avoir un peu de tristesse. Et puis, comme je te disais, il y avait mon père qui était parti 7 mois avant seulement. Et bien, figure-toi que j'ai pas eu une once de nostalgie, de tristesse, rien du tout. Et malgré le bouleversement hormonal que représente l'accouchement, le postnatal, etc. Ça a été vraiment une expérience d'amour, mais très très belle. Et au terme de cette période... Marie est repartie, donc elle est restée une semaine. Moi, je suis restée aussi encore à me reposer pendant 3 semaines. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, il faut que cette connaissance soit diffusée. C'est super important. Enfin, il faut que ça sache. Et c'est une connaissance qui est le mois d'or, qui est issue de la médecine chinoise, de l'Ayurveda et de nombreuses traditions au Mexique, au Maghreb, etc. Où on prend vraiment soin des femmes. Et je me suis dit, il faut que ça sache. Et donc, j'en ai parlé à Marie. Et Marie m'a dit, écoute, moi, je suis en train d'écrire des articles pour mon blog. Donc je lui ai dit, écoute, faut qu'on fasse quelque chose toutes les deux. Et je suis allée voir mon éditeur avec qui j'avais travaillé, donc Jean-Daniel Belfond, des presses du Châtelet, qui m'avait fait confiance pour le livre sur Thich Nhat Hanh, et avec qui on entretenait une très belle collaboration, et on lui a proposé le projet, et puis ça lui a beaucoup plu, donc il nous a dit go.
Génial. Ça, c'était il y a combien de temps, du coup, le démarrage du projet?
Eh bien, le démarrage effectif, je dirais, c'était juillet-août. On a signé notre contrat peut-être fin août.
D'accord.
Donc, ça s'est fait très vite. Il nous a mis une deadline assez rapidement. Donc, c'est un petit peu stressant quand même. Mais en même temps, pour des projets de ce genre, enfin, c'est extrêmement important, tu vois, d'avoir une date fixe. Parce que sinon, dans l'écriture, on a tendance à se... On peut aussi un peu errer, se perdre. C'est vraiment important de pouvoir s'organiser et programmer son écriture, en fait.
Mais c'est vrai que ça concrétise, parce qu'on connaît tout quelqu'un qui a un roman dans des tiroirs depuis 30 ans, etc.
Et là, au moins, on sait
que voilà, le projet va se concrétiser, se préciser. Et c'est vraiment génial.
Et tous les gens qui te disent « Ah, moi, je voudrais écrire un livre. » Après mon premier livre, j'ai plein de gens qui sont venus me voir. Ils me disent « Il faudrait que je te parle de quelque chose. » Et à chaque fois, je savais. Écoute, je voudrais écrire un livre.
Après, c'est hyper personnel et ça dépend totalement du type de livre, du type de projet. Dans ce projet-là, justement, c'est vrai que ce qui m'a interpellée et aussi très agréablement surprise, c'est que vous étiez deux auteurs.
Oui.
Donc, sur un livre écrit à quatre mains comme ça, je voulais aussi te demander comment ça s'est passé au niveau de la répartition de votre travail à toutes les deux. Voilà, comment vous avez fait.
Oui, alors, disons que moi, je pense que ma compétence, c'était l'écriture. Et la compétence de Marie, c'était davantage la connaissance théorique sur le sujet du postnatal, puisqu'elle avait déjà commencé des recherches en médecine chinoise, en Ayurveda, etc. Elle est toujours passionnée. Et donc, mon travail, moi, ça a été... Bon, j'ai fait aussi des recherches, mais ça a été aussi de restituer toutes ces connaissances. Donc, le conseil de notre éditeur, malgré tout, il avait été de se départager le travail très vite en fonction des chapitres. Et il y avait un vrai risque que de disputes, de conflits.
Ouais.
Hein, et lui nous avait averti. Donc ça, c'était intéressant parce qu'il nous l'avait dit dès le départ que parfois les meilleurs amis du monde ne pouvaient plus se voir au terme de
d'un tel projet,
tout à fait. Et c'est vrai que c'est un risque. Et on a eu aussi des moments parfois plus tendus. Parce qu'on n'a pas toujours la même façon de travailler et qu'on est pressé par le temps, etc., etc. Mais bon, voilà, l'idée c'était que de toute façon Marie me laisse la main libre sur la reformulation. Ça, c'était très important pour moi et on l'avait mentionné dès le départ. C'était que on pouvait jouer un petit peu sur les mots parce que parfois ça compte, mais on pouvait pas revenir à chaque fois sur chaque ligne parce que c'est pas dit d'une façon, c'est pas possible. Donc en fait, il y avait vraiment cette règle dès le départ de chacun se laisse libre, on se corrige sur le plan syntaxique, sur le plan de l'orthographe, sur le plan de la cohérence globale aussi, mais on ne tilte pas sur des mots, etc. Il faut vraiment que chacun se laisse un champ de liberté. Et puis toujours avec cette exigence aussi d'écrire sur un mode qui soit soutenu, en fait. On peut pas écrire familièrement. Et rien que déjà d'avoir cette exigence, ça permet d'avoir une cohérence aussi d'ensemble et d'écrire... au niveau de l'écriture, avoir un ton suffisamment soutenu qui permette de se mettre d'accord aussi. Voilà.
Mais c'est intéressant parce qu'en le lisant, je l'ai trouvé vraiment très cohérent et harmonieux. Donc, à la fois, je pense qu'il est nourri de vos deux expériences, à la fois personnelles en tant que maman et professionnelle.
Ouais.
Et en même temps, ça donne un tout vraiment uni et unifié. Donc, c'est très agréable à lire. Il n'y a pas de grandes différences à des moments.
On s'est vraiment efforcé, effectivement, d'avoir une harmonie d'ensemble. C'était important.
Super. Du coup, je voulais te demander aussi, parce que du coup, tu es maman deux fois, donc
oui.
Un petit garçon et une petite fille. Comment s'était passé ton mois d'or, notamment là, tu nous parlais de la naissance d'Elsa. Si tu voulais nous en raconter un peu plus, comment ce que tu avais appris t'avait aidé, toi, t'organiser, etc.
Avec plaisir. Ça me fait toujours. Je suis heureuse de me replonger, à travers notre discussion, de me replonger dans ce mois où j'ai encore le cœur qui palpite. Je suis encore très émue. Moi, j'avais mon épicentre. Donc, j'en en parle dans le livre d'ailleurs, c'était mon lit. Donc, j'avais un grand lit. Elsa dormait à côté de moi dans le coussin d'allaitement. Et je restais donc la plupart du temps allongée. Et c'était comme si j'étais après une phase de grand stress. Parce que, quand même, l'accouchement, puis là, c'était un accouchement physiologique.
D'accord.
Donc, il y a quand même beaucoup de stress, d'adrénaline. Et puis après, c'est l'euphorie. Et tu vois, il faut se remettre de ses émotions. Et donc, je passais des heures, en fait, allongée avec la petite que je mettais au sein.
En peau à peau, en allaitement.
Alors, en peau à peau. Donc, ça, c'est hyper réparateur. Et vraiment, je ne peux que le conseiller. Après la sortie du bébé, bah, en fait, la maman a quand même une sensation de vide qui peut être un peu... un petit peu perturbante et avoir son petit être comme ça sur sa peau, c'est vraiment merveilleux. Et donc on a passé de longues heures comme ça, Elsa et moi, et donc j'avais je vais rentrer dans le concret, hein.
Très bien.
des alaises,
ouais,
de protection, ça c'est très important, parce que ça nous permet aussi de se sentir sécurisé. Si on dit, bon, on se dit pas, ah, mince, je suis en train de salir, etc. Moi, il y a des alaises, donc c'est protégé. Et puis, donc j'avais mon compagnon Guillaume qui venait régulièrement me voir. On discutait aussi tous les deux, savoir ce dont j'avais besoin. J'avais ma petite bouillotte. Donc Marie et lui me demandaient ce que je voulais déjeuner ou dîner. Ils m'apportaient le petit déjeuner. En fait, j'avais à me soucier de rien. Et ça, c'est juste le rêve, en fait. C'est comme à l'hôtel, c'est génial. Et donc, du coup, j'avais pas d'inquiétude, tu vois, j'avais pas de soucis.
De logistique,
d'organisation. Juste, voilà, je faisais quelques pas pour aller aux toilettes, pour aller prendre une douche. Et puis après, je me remettais dans mon lit. Et c'était vraiment... c'était merveilleux parce que j'ai pu tisser le lien avec ma petite fille, être consacrée à elle, enfin, dans une belle énergie, dans une énergie de paix avec beaucoup de sérénité. Et je pense qu'elle l'a ressenti parce que bah, c'est quand même une enfant, je pense qu'il est assez sécurisé aujourd'hui. Donc
c'est ça, vraiment c'est... l'attachement aussi qui se construit effectivement dans ces premiers jours, semaines, mois.
C'est ça, c'est l'attachement. Et si la maman se sent bien, je pense que l'enfant a des chances de se sentir bien aussi. Après, il y a plein de... Voilà, après, physiquement, je veux dire, il faut cicatriser quand on a une petite déchirure. Moi, j'ai une petite déchirure, donc voilà, il faut... Puis honnêtement, on marche plié en... Enfin, moi, en tout cas, je marchais plié en deux. Donc, parce que, voilà, le corps a vécu un tel choc, il faut pouvoir l'encaisser. Donc, il faut vraiment, voilà, beaucoup, beaucoup... Moi, je me suis beaucoup, beaucoup reposée. Et l'avantage bah, d'avoir Marie avec moi, c'est que la nuit, par exemple, quand la petite, quand Elsa se réveillait, parce que bah, ils se réveillent, les enfants et les nourrissons se réveillent toutes les 2 heures, hein, c'est important, ça va. On croit qu'on va se reposer, mais non,
pas vraiment,
surtout pas la nuit. Donc par exemple je l'entendais qui se réveillait, donc moi je me réveillais mais j'étais quand même très fatiguée, et là j'avais une petite fée, j'entendais frapper à la porte, donc Marie qui me demandait est-ce que tu veux que j'aille la changer, et là merci,
ouais, alléluia.
Alléluia, oui je veux bien, merci, comme ça j'ai juste à rester allongée, je la mets au sein et je suis tranquille.
Super.
Ouais. Mais oui, parce que en fait même se lever c'est un effort, enfin c'est vraiment, ça demande beaucoup. Donc voilà comment ça s'est passé. Et puis après, bah, j'ai reçu aussi des massages. J'ai été massée. J'ai eu aucun souci particulier. Enfin voilà, le but c'était que je sois complètement en paix et complètement sereine.
Et ce que tu as ressenti.
Ouais, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai pu me reposer aussi parce que le temps où Elsa dormait, j'étais pas en train de ranger la maison, en train de, voilà, de nettoyer les sols ou de faire mes propres repas. J'étais, quand elle dormait, moi je me reposais.
Vraiment, à
100%. Oui, ouais.
Du coup, t'avais éloigné aussi ton téléphone, un maximum de choses technologiques.
Alors, j'ai essayé. Parfois, il m'est arrivé quand même d'être un peu sur mon téléphone. Mais globalement oui, j'ai pas été beaucoup dans la technologie, enfin de toute façon, enfin voilà, je me suis beaucoup reposée, j'avais besoin de dormir, j'ai beaucoup pratiqué aussi les respirations, certaines respirations pour remettre les abdos et les organes en place, puis j'ai ressenti et j'essaie de ressentir ce qui se passait, et voilà, c'est vraiment une belle invitation à la contemplation. C'est que moi je me rappelle j'avais la fenêtre devant moi et puis il y avait le ciel bleu, je voyais passer un avion et c'était merveilleux, voilà, ça me suffisait, je voyais passer cet avion et puis je me sentais à ma place, enfin voilà, juste dans l'instant présent, là où je devais être, et j'étais pas en train de me fatiguer à faire multiples choses dans la maison, j'étais juste là présente avec elle et ça m'emplissait d'une grande paix.
Mais je pense que cette expérience-là, que ce soit avec des enfants ou des bébés, ils sont vraiment aussi dans l'instant, dans les découvertes de chaque instant. Et un bébé, la première fois qu'il voit quelque chose, les regards,
mais
etc.
Oui.
Et tout ça, c'est vraiment magique d'avoir pu vraiment en profiter savourer ça.
Mais oui, mais tu vois, pouvoir l'observer pendant des heures, juste la regarder, en fait, ça, c'est génial. Moi, ça a comblé mon cœur, tu vois. Et c'est vrai que si j'avais dû faire la cuisine, j'aurais pas eu l'impression d'être suffisamment disponible pour elle. Là, j'ai pu l'être. Et ça, c'est quand je pense quand on vient d'accoucher, c'est très très important de pouvoir être disponible pour son bébé. Ça peut être un gros facteur de stress
de devoir courir partout. Et c'est vrai que vous en parlez dans le livre aussi, c'était super intéressant, la partie sur les aînés aussi, par exemple, quand il y a aussi d'autres enfants, tous les conseils que vous donnez en termes d'organisation, même le cercle familial et amical, de leur expliquer l'importance de ce mois-là. Moi, j'ai vraiment pioché beaucoup de choses passionnantes dans le livre. J'étais en train de souligner à chaque fois avec mon petit crayon et de mettre des annotations dans la marge. Vraiment, super. C'est super que ça puisse aider les jeunes mamans à passer ce mois-là un petit peu différemment de notre société qui est très frénétique, dans l'efficacité,
exactement,
la rapidité.
Exactement. Mais toi qui es dans le yoga, justement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui t'écoutent qui sont aussi peut-être des yogis. Et c'est vrai que c'est vraiment un espace-temps, c'est comme une retraite en fait. Comme une retraite méditative ou yogique, c'est un moment où on est juste là, on est au présent et ça suffit. Et c'est ça qui est génial, c'est que en fait, on se rend compte qu'avec un bébé, notre seule présence le ravit et le comble. Donc ça suffit en fait.
C'est magique. T'es en dehors du temps et des lieux, et c'est un peu à la Michel Foucault, quoi. T'es dans une sorte de bulle aussi.
Mais c'est ça, t'es complètement dans ta bulle à part. Et voilà, le temps passe à la fois lentement, vite, rapidement et lentement. C'est à la fois intense parce que voilà, surtout la première fois, surtout avec un petit bébé entre les bras, on se dit waouh, quelle responsabilité. Et en même temps, c'est un temps voilà, qui fait beaucoup relativiser parce que on est vraiment au contact de la vie et on n'est plus du tout dans des futilités. Et d'ailleurs, je te conseille vraiment de sortir trop vite, tu vois. Alors, on peut sortir dans de beaux endroits, la nature et tout, mais par exemple, moi, franchement, évitons les supermarchés. Avec des tout petits comme ça, en plus ils sont tellement purs, ils viennent de naître. C'est vrai que c'est bien de rester dans son cocon.
De profiter de ces moments-là. Il y aura tout le temps après, effectivement, d'aller dans le monde extérieur et de découvrir tout le reste. Déjà, se découvrir en famille.
C'est ça.
Puis qu'il y ait des moments avec le papa aussi ou la compagne.
C'est ça. Et en fait, c'est prouvé, on l'explique dans le livre, que la maman est très, très perméable. Elle est à fleur de peau, sensible. Mais en fait, elle est complètement perméable. Elle est ouverte à la fois physiquement et psychiquement. Elle est en pleine restructuration cérébrale. Donc, il y a des neurones qui se détruisent pour créer de nouvelles connexions pour pouvoir répondre aux besoins du bébé. Et ça, c'est prouvé. Ça, c'est une étude qui date de 2016. Et voilà, c'est prouvé qu'elle est complètement perméable. C'est poreux, c'est complètement ouvert. Ce qui veut dire qu'elle est complètement ouverte à toutes les énergies. Donc, il vaut mieux que les énergies dont elle s'entoure soient positives. Donc, s'entourer de beau, de doux, de calme, de bienveillance, etc. Donc la médecine chinoise en parle beaucoup, de cette ouverture. Donc, elle a un sens, en fait, cette ouverture. C'est pour pouvoir s'adapter aux besoins du bébé. Mais ça peut, si on s'expose, par exemple, à la télévision, à des images de violence, si on se retrouve dans des contextes extrêmement trop frénétiques, trop stimulants, ça peut être ressenti assez difficilement par la maman. Donc, d'où l'importance qu'elle s'entoure vraiment d'amour. Et parce qu'on peut ressentir les choses de manière assez violente parce qu'on est complètement ouverte et perméable, en fait.
Puis s'entourer vraiment des personnes essentielles, effectivement, le couple qui est devenu aussi un couple parental. C'est vrai que même pendant la grossesse, il y a beaucoup de conseils qui fusent, etc. Et ça peut être même un petit peu perturbant aussi, et de revenir dans l'intelligence de son corps, dans le lien avec le bébé, avec le conjoint.
C'est ça. Se reconnecter à son corps. Moi, je conseille beaucoup la méditation en amont de l'accouchement. Pouvoir se relier aussi à son être profond et ce qui permet aussi de se relier à son intuition. Donc et l'intuition, malgré, on en a besoin pour les soins du bébé.
Ouais. Parce que le corps sait, en fait.
Oui, le corps sait, quand même. Ouais. Et puis, on est la maman, donc de toute façon, on sait.
Exact. Tu pourras décrypter les pleurs de ton bébé, effectivement.
Oui, je pense qu'il y a...
Il y a des codes qui
s'établissent. Ouais. Il y a une part en nous qui sent, quand même.
Qui sent. Ça, c'est génial, malgré tous les livres qu'on peut parfois lire de grands psychiatres, pédagogues,
oui,
etc.
Ouais.
Ça peut être passionnant.
Ouais.
Et en même temps, voilà, d'observer soi-même ce qu'on ressent et d'actualiser avec le moment, quoi, de ce qui se passe.
C'est ça.
Ouais. Donc, en tout cas, il y a beaucoup d'enseignements dans tout ça.
Oui.
Et est-ce que, du coup, si tu avais, on va dire, 2 ou 3 conseils à donner aux femmes voilà, qui se préparent à vivre le mois d'or, qui vont accoucher prochainement, qu'est-ce que tu leur dirais ?
Alors, je leur dirais d'abord de cuisiner. Et de faire cuisiner les autres aussi à leur service. Parce que, en fait, c'est le carburant pour récupérer la nourriture. Et il est important qu'elles mangent bien. La nourriture va avoir un impact à la fois sur leur morale et sur leurs conditions physiques. C'est-à-dire qu'après l'accouchement, on a dépensé une énergie digne d'un marathon. On a la grossesse derrière nous. On est vraiment fatigué. Donc, c'est important de bien manger. Et c'est le repas après l'accouchement. C'est merveilleux. Enfin, je veux dire, au niveau, on le ressent sur le palais, c'est un délice. On a l'impression que ça fait des années qu'on n'a pas mangé.
Ça a l'air vraiment sympa quand on parle. C'est vrai qu'avec le poids du bébé aussi qui prend de la place, on peut fractionner les repas, on ne digérait pas forcément très bien.
C'est ça. Donc, et là, c'est une merveille en fait.
Il y a quelques aliments qui n'étaient pas forcément au menu.
C'est un renouveau complet. Alors, moi, ce que je conseille même, c'est quand en accouchant à l'hôpital, c'est de se faire livrer des repas à l'hôpital. C'est-à-dire une belle maman peut venir avec des petits plats, c'est parfait. Parce que vraiment, il faut que les mamans soient bien nourries. Et d'ailleurs, au Maroc, ils ont toute cette connaissance au sujet des femmes, donc au sujet du mois d'or, sur la manière, enfin, en postpartum. Et ils ne laissent pas les femmes se nourrir, prendre les plateaux repas de l'hôpital. Les familles arrivent avec les repas.
Incroyable.
Ouais. Donc prévoir de quoi bien manger à l'hôpital, donc des oléagineux, des repas chauds, donc des oléagineux toujours à côté de soi, à disposition sur sa commode de nuit, toujours avoir une tisane bien chaude et aussi avoir des bons repas qui sont très restauratifs à disposition. Donc pour ça, s'organiser, on explique dans le livre, congélateur, traiteur, si on habite dans une grande ville, ça peut être intéressant le traiteur, moi je trouve que c'est une option qui est pas mal quand même, un peu cher mais qui est pas mal. Et voilà.
Puis il y a plein d'idées de repas, de recettes, moi je salivais en feuillant le livre et je me disais ça a l'air vraiment très très bon.
Manger bouilli, en purée, pour permettre à l'estomac de ne pas dépenser d'énergie à digérer. Ouais, okay. Tout à fait, ça c'est vraiment primordial.
Tu vois, vous parlez des bouillons, etc. et de certaines...
C'est ça, c'est ça. Ensuite, deuxième conseil, ce serait donc de s'organiser pour se faire servir à la maison. Après l'accouchement, l'accouchement était un exploit. C'est énorme en termes de dépenses énergétiques. Alors, en plus, la grossesse derrière, c'est vraiment un exploit. Donc, la femme, moi, je pense qu'elle doit se faire servir. Les femmes doivent se faire servir après l'accouchement. Et donc, pour ça, il faut s'organiser. Donc, il faut s'organiser avec le conjoint, essayer de faire en sorte qu'il soit sur la même longueur d'onde que nous. Et trouver des relais, des personnes qui peuvent venir nous aider pour un petit coup de ménage, pour un repas, trouver peut-être une doula, ça peut être intéressant, soutien aussi. Mais il faut vraiment prendre conscience que, en fait, pendant la grossesse, on est galvanisé, on est gavé de belles hormones. Donc, on ne se rend pas compte de ce qui nous attend après. Mais après l'accouchement, c'est quand même une période qui peut être vraiment inconfortable, qui a quand même des zones d'inconfort. Et parce qu'on est dans une phase de transition. Il faut arriver à la traverser. Et il faut pouvoir la traverser, et pour ça, on a besoin de soutien. C'est comme, là en ce moment, tu vois, c'est Roland Garros, Federer, après un match de tennis. Est-ce qu'il rentre chez lui ? Est-ce qu'il va faire des pâtes tout seul ? Il va se faire sortir la casserole, etc. Se faire
jamais.
Un plat de pâtes ? Non, je pense pas. Voilà.
Ouais, il a tout donné, en fait.
Il a tout donné. Donc après, il faut que le cercle de soutien autour
prenne le relais,
lui donne. Donc. mobiliser le papa, mobiliser les amis, le réseau, s'organiser, voir si on n'a pas une bonne amie qui peut venir une semaine et se relayer avec une grande tante, une cousine, une maman, une belle-mère, si on s'entend bien, et faire un roulement comme ça au moins pendant 6 semaines.
Et c'est intéressant parce que c'est vrai que dans beaucoup de sociétés traditionnelles, il y a tous ces liens familiaux. Oui. Des fois, la famille vit dans le même pâté de maison.
C'est ça.
Et nous, on a tendance à beaucoup compartimenter et de retrouver cette entraide familiale ou amicale.
Oui, c'est super intéressant aussi. Mais oui, mais en fait, tu vois, même moi, en écrivant, j'ai pris conscience de ça. Je me suis dit, en fait, la naissance, c'est une communion d'êtres humains, en fait. Mmh. C'est une invitation à tous nous retrouver. Ouais. Et les uns avec les autres. Et en fait, j'en ai pris conscience avec encore plus de fraîcheur, tu vois, en me disant, mais oui, mais en fait, la naissance, on doit être ensemble, nous, les êtres humains, tous ensemble, les parents, et faire en sorte que nos relations soient bien sûr positives et constructives. Mais c'est vraiment une invitation à ça, en fait. Et un des plus grands dangers qui gâtent les mamans, c'est l'isolement. Dans les sociétés occidentales, c'est vraiment l'isolement qui est très durement vécu. Parce que le congé paternité, c'est 11 jours, donc c'est pas beaucoup. Et après, beaucoup de mamans se retrouvent toutes seules.
Ouais.
Donc là, c'est important d'activer le réseau. Et même si on n'a pas beaucoup de personnes, arriver à trouver. Alors, il y a des doulas, il y a des réseaux, il faut le savoir. Surtout dans le Kundalini Yoga, il y a des réseaux de doulas Kundalini Yoga qui peuvent venir à la maison, aider. Ça peut être intéressant.
Ouais, c'est plein de pistes à explorer.
Oui,
effectivement.
C'est
déjà
ça.
D'être sensibilisé à cette idée de mois d'or qu'on connaissait pas encore forcément.
Bien sûr.
Le livre, ça va permettre d'en parler davantage.
C'est ça. Et d'ailleurs, Meghan Markle, je sais pas si tu connais Meghan Markle,
ouais.
Qui est donc la
famille royale.
Voilà, la famille royale d'Angleterre pratique le mois d'or.
D'accord,
intéressant. Ouais. Mais elle s'est beaucoup inspirée du livre The First 40 Days, qui est un livre en anglais, qui est écrit par une dame d'origine chinoise sur la tradition issue de la médecine chinoise. Donc elle explique tout ce que. Beaucoup de choses qu'on explique dans le livre, l'importance du repos absolu. Donc rester allongé, récupérer, vraiment récupérer, bien se nourrir. Et être entourée.
Super. Ouais, ça fait plein de beaux axes, en tout cas, pour toutes les futures mamans, d'en parler aux futures mamans autour de nous.
Oui, c'est ça.
C'est vraiment génial.
C'est ça. Et puis, peut-être dernier conseil aussi, c'est de rencontrer des mamans et parler avec elles à cœur ouvert. Parce que souvent, en fait, malheureusement, il y a beaucoup d'images, d'apparences autour de la maternité. Et... on n'ose pas en fait dire que parfois c'est difficile parce qu'on a un bébé donc entre nos mains et c'est la chose la plus belle qui soit et donc c'est très très beau et du coup on peut avoir du mal à reconnaître que parfois c'est dur et il y a une espèce de tabou dans notre société qui fait que finalement les femmes se retrouvent seules parce qu'en fait c'est le poids du silence sur la réalité de ce mois. Qui peut quand même être inconfortable parce que faut cicatriser soit d'une césarienne, soit d'une épisiotomie, puis il y a mille mots hémorroïdes et autres, suite de couches voilà, il peut y avoir quand même des petits bébés qui peuvent pleurer des difficultés avec le bébé, donc
le couple aussi, comment il se reconfigure,
les nuits qui sont entrecoupées. Ça, au bout d'un moment, ça joue beaucoup sur le moral. Donc, c'est important que. Et puis, le bébé se réveille surtout la nuit. Il dort plus le jour.
Ouais.
Donc, il faut se reposer le jour. Quand il dort, il dort. Quand il dort, il faut dormir. Voilà.
Essayer de se synchroniser sur les rythmes.
Exactement. Et puis, donc, pouvoir en parler avec d'autres mamans qui pourront conseiller et qui feront part de leur expérience.
Et qui auront vécu peut-être aussi des situations comme ça, de pouvoir libérer la parole autour de ça.
C'est ça.
Échanger, s'entraider.
C'est ça. Ma première grossesse, j'ai une amie qui m'a regardée, qui m'a dit « Mais Céline, vraiment, prévois quelques surgelés. » Et en fait, elle me l'a dit sur un ton où c'est vrai que ça m'a touchée. Je me suis dit « Ah oui !»
Bonne idée.
Voilà, moi je planais complètement et ça m'a un petit peu remis les pieds sur terre.
C'est vrai qu'il y a tellement de choses à gérer pendant la grossesse, voilà, pour préparer l'arrivée du bébé, etc., les vêtements du bébé, etc., etc., que c'est pas forcément facile d'anticiper sur l'après.
Oui, bah oui.
Et pourtant, c'est hyper important, comme vous le soulignez dans le livre.
Ouais, donc, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel.
Super.
S'organiser. Mais on donne toutes les clés hein, dans le livre.
Il n'y a plus qu'à le lire. Et... Est-ce que vous avez d'autres projets ? Enfin, là, du coup, peut-être un petit peu de repos justement après tout ce
On essaie de se reposer. En même temps, on a beaucoup de travail de promotion. Alors, on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais en même temps, on a quand même un sentiment d'accomplissement. Et ça, c'est chouette. Ça nous fait beaucoup de bien. Et l'idée, bah, pour le moment, c'est en fait que le mois d'or devienne un concept et qu'on puisse en parler, que ça devienne un mois qu'on veut organiser. Comme on prend soin de la grossesse, eh bien, on prend soin du ce qu'on appelle aussi aux États-Unis le quatrième trimestre. En fait.
Ouais.
Et comment on l'organise, que ça devienne un vrai sujet. Et moi, en tant que journaliste, j'ai à cœur que cette période devienne un sujet de société.
Que les gens
connaissent. Que les gens connaissent. Parce qu'il y a trop de dépression postpartum, il y a trop de baby blues. Il faut savoir qu'il y a des sociétés où baby blues n'existent pas. Hein. On ne sait pas ce que ça veut dire. Parce que la femme est entourée. Donc la jeune maman est entourée. Du coup, moi, mon but, c'est vraiment que ce sujet soit... devienne un sujet de société et qu'on entoure les jeunes mamans, qu'on en prenne soin. Parce que derrière, c'est une maman qui est heureuse, c'est un bébé heureux, c'est une famille heureuse.
C'est remettre la maternité aussi au cœur de la vie, au contraire de cette tendance à reprendre le travail rapidement, être la Wonder Woman qu'on était avant.
Bien sûr.
Que là, c'est différent, c'est
bien
une autre période de vie.
Oui, c'est d'arriver à harmoniser en fait toutes ces dimensions. Parce que rien n'empêche évidemment de retrouver après son travail, mais prendre le temps, vraiment, c'est important. C'est ce qui se pratique beaucoup dans les pays nordiques et c'est extrêmement... c'est extrêmement agréable en fait.
Mais tu vois, on le fait par exemple quand on rencontre quelqu'un, toute cette période de coups de foudre, de petites attentions, c'est un moment spécial d'aller au restaurant ensemble, de se découvrir.
Fait.
Et cette découverte du bébé, de se, voilà, s'apprivoiser,
voilà.
Je pense que c'est hyper important. Et si on ne prend pas ce temps-là, effectivement, il ne sera pas donné à un autre moment. Quoi.
C'est ça, donc mettre un maximum d'ocytocine à ce moment-là, à cette période. Et c'est ce qui permet, je pense que c'est ce qu'on a envie profondément. Quoi. On a envie de se reposer. Je veux dire, les chiffres parlent. 80% de baby blues, 25% de dépression postpartum, c'est pas rien.
C'est énorme.
Ouais. C'est énorme. Donc les chiffres parlent et je pense que ça veut dire quelque chose. C'est un signal, il y a un message derrière ça.
Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment passé ensemble qui était vraiment délicieux. Pour toutes les pistes que ça peut donner aux auditrices
merci, Claudia.
De ce podcast. Et en tout cas, je vais mettre les liens pour le livre qui s'appelle Le Mois d'Or. Peut-être à Amazon ou la Fnac ou chez les libraires aussi.
Voilà, bien sûr, les libraires, très important.
Toujours important.
Ouais. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur la communauté du Mois d'Or sur Facebook. Le but aussi c'est que ça devienne que le mois d'or devienne une communauté, qu'on soit nombreuses et nombreux et pour qu'on puisse en parler, que interpeller certains grands médias pour que ce sujet devienne un vrai sujet. Parce qu'il faut savoir que l'allongement du congé paternité avait été demandé par la Commission européenne à la France et il n'a pas été voté. Donc il y a encore
beaucoup de travail à faire. Pays, il y a un congé beaucoup plus important.
Tout à fait.
Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des inégalités hommes-femmes en disant que les femmes vivent beaucoup d'inégalités, mais ça pour les papas, le fait de ne pas avoir beaucoup de temps avec leur bébé, c'est aussi assez difficile.
C'est difficile pour eux, c'est difficile pour la maman qui se sent pas reconnue dans son travail, dans ce qu'elle accomplit chaque jour avec son bébé. Je pense que ça joue aussi sur la stabilité des couples.
Ouais, absolument. Il y a encore de quoi faire et il y a déjà des pays où c'est beaucoup plus évolué que nous, donc on peut aussi s'en inspirer.
Totalement. Ouais. Il faut savoir qu'aux Pays-Bas, on en parle dans le livre, hein, les mamans disposent d'une femme en fait qui est entre la puéricultrice et la sage-femme, et elle vient chez toi pendant 10 jours et elle t'aide 6 heures par jour.
C'est incroyable.
C'est ouais. génial.
Pour nous, ça paraît fou.
Mais ouais. oui, mais oui. Et puis nous, en plus, on sort plus en plus tôt de l'hôpital, etc. Ouais. Et moi, je trouve que c'est une super idée.
Ouais. Carrément. Peut-être à exporter vers
oui.
chez nous aussi.
Bah ouais, c'est ouais. une belle solution. Ouais.
Mm. Top. Mm. Encore un grand merci. Et on vous souhaite une bonne journée ou soirée en fonction de votre heure d'écoute. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures autour du yoga et de tous ces autres sujets.
Merci, Claudia.